Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Les énergies. Quelles sont les énergies produites sur notre territoire? Un pays dessiné de montagnes, de vallées, de rivières et de vents, habité d'une grande diversité d'êtres vivants. Des énergies renouvelables, bien sûr, celles qui nous servent à avancer, à décoller, à rêver, pourrions-nous dire. Aller plus haut, aller plus loin. Oui, mais pourquoi faire? Des énergies encore renouvelées et ainsi de suite. Il est grand temps d'en produire et d'en proposer au plus grand nombre parce que ça chauffe. Certains parlent d'effondrement. Qui sait, peut-être enfin. Et pour ce second épisode d'une série de 4, nous vous proposons une balade en vallée de Quin. Vous connaissez? Moi pas, jusqu'à ce jour.
Alors là, nous sommes à Vachères en Quin. Dans la ferme de Jürgen Haun et Oda Schmidt.
Je t'avais pas vu.
Salut Jürgen.
Pourquoi tu marches comme ça? Et un peu normal, un peu relaxé. Pas comme ça.
Alors, ça y est, on est à la ferme de Jürgen Haun. Ah. Alors, tu peux me la décrire là, comme ça, tout de suite là. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous?
Il y a le bâtiment des chèvres. Donc une chèvrerie avec un hangar beaucoup plus récent qui sert à stocker du fourrage et du bois déchiqueté et les machines. Mais sinon, on est entouré de chevreaux qui ont entre 6 heures et 4 semaines d'âge. Parce que ce matin, on a eu des quadruplés.
Eh bien, dans la vallée de Quin, il s'en passe des choses. Plus exactement, il s'en invente des choses. Depuis longtemps, et il y a tout un historique, des hommes et des femmes, souvent venus d'ailleurs, non seulement imaginent, mais aboutissent leurs rêves. Et tous ensemble, enfin presque, ils et elles sont en chemin pour devenir producteurs d'énergie verte pour toute une vallée. Voici comment. Épisode 2. Des énergies en vallée de Quin. Une série dont on pourrait tourner les pages illustrées. Tourner la page.
L'association Val de Quin, c'est un espace de vie sociale, un EVS. Voilà. C'est créer du lien, rendre du service, effectivement. L'essentiel du service, c'est la médiation numérique, parce que beaucoup de gens sont dans la panade avec ces histoires d'informatique, surtout dans le monde agricole et dans la population vieillissante.
Babi Robin, bénévole à l'association Val de Quin et membre de la commission Transition énergétique. Nous nous sommes retrouvés dans les locaux de l'association L'Épilibre, située au cœur du village de Saint-Julien-en-Quin, là-bas, tout au fond de la vallée de Quin, sous les falaises du Vercors.
En dehors du numérique, il y a plusieurs projets. Alors, il y a un volet très important qui est la parentalité, parce qu'on est un espace de vie sociale financé par la CAF en plus. Ensuite, il y a un volet, il y a plusieurs projets. Il y a un projet qui touche à l'alimentaire, à la résilience alimentaire. Donc, il y a une commission pour ça et des membres actifs du CA ou des bénévoles qui ont des projets qui tournent autour de l'alimentaire. Donc, par exemple, c'était lié au jardin nourricier pour faire du maraîchage. C'était les jardins nourriciers qui jardinaient, mais Valdequin soutenait et animait. Aujourd'hui, c'est des nouveaux projets qui se mettent en place, mais en rencontre avec les habitants, les agriculteurs de la vallée, en particulier à Saint-Julien, comment partager ce savoir et comment cultiver aujourd'hui pour le besoin des habitants. Ça, c'est un deuxième volet. Le troisième, c'est un volet sur la mobilité, la transition énergétique et la mobilité. Donc ça, c'est une commission aussi très active, avec des projets bien développés. Et il y a un dernier volet qui concerne la culture. C'est-à-dire qu'on a une programmation culturelle sur toute l'année, qu'on est en train d'ailleurs de finaliser, là, qui s'étend en gros de mars à novembre, où on propose des concerts, des spectacles, des lectures, des conférences, des films, etc.
44 degrés, 50 minutes et 19 secondes de latitude nord et 5 degrés, 17 minutes et 34 secondes de longitude est. Valdequin.
Donc il y a à Valdequin une commission nommée Transition énergétique qui a été créée en 2020. Et cette commission a deux volets. Le premier concerne vraiment les performances énergétiques des habitations, comment améliorer les performances techniques et énergétiques, comment économiser l'énergie, donc aussi bien en chauffage qu'en eau d'ailleurs, toutes les formes d'économie d'énergie. Ça, c'est le premier volet. Et il y a un deuxième volet qui est beaucoup plus développé, à vrai dire, aujourd'hui, parce qu'il y a eu plus de bénévoles pour s'occuper de ce volet-là, qui concerne la mobilité douce dans la vallée. Et voilà, donc là, on a monté des projets très élaborés avec en premier objectif d'acheter des vélos électriques et de les louer à extrêmement bas prix aux habitants, de façon qu'ils découvrent, qu'ils essayent, qu'ils testent, voir si c'était possible de remplacer la voiture ou la deuxième voiture ou occasionnellement pour les déplacements, se passer de la voiture et d'utiliser le vélo.
Oui, sinon on entend les oiseaux, hein, c'est le printemps.
Yoren Aoun, éleveur de chèvres et de vaches, producteur de fromage mais aussi de bois plaquettes pour notamment la chaudière communale de Saint-Julien-en-Quin. Une énergie ainsi rendue est distribuée à l'école, la mairie, des bureaux, quelques logements et le local associatif Valdequin. Initiateur d'Acoprev, il est bien sûr producteur et fournisseur d'électricité verte.
Alors, qu'est-ce que tu m'expliquais là ?
Alors, j'ai commencé à t'expliquer comment on est arrivé à devenir presque autarque en énergie pour notre activité principale qui est donc la transformation du lait en fromage. Bien sûr, il y a les tracteurs aussi qui servent à faire le fourrage, mais là, on en est encore loin. Mais peut-être avec Acoprev et l'hydrogène, un jour, on aura des tracteurs qui roulent à l'hydrogène. Ça, c'est l'option moyen terme.
Alors effectivement, les vélos sont à assistance électrique, donc il faut recharger les batteries. Et il se trouve qu'à Saint-Julien, il y a un projet d'autoconsommation énergétique.
Babi Robin.
C'est-à-dire qu'il y a tout un projet avec Acoprev qui a installé des panneaux solaires sur certaines granges et qui fournissent l'électricité au cœur du village. Donc toute la vallée n'est pas pour le moment alimentée par ce projet, mais ça va venir, ça se construit petit à petit. Là, à Saint-Julien, il y a tout le cœur du village qui est alimenté par ces panneaux, et en particulier le local, l'épilibre de l'association Val-de-Quin. Donc nos vélos sont rechargés grâce à Acoprev, à ce projet d'autoconsommation. Val-de-Quin, l'association travaille sur toute la vallée, donc sur les quatre communes de la vallée, même une cinquième qui est Marignac. Ça fait partie de notre territoire d'action. Donc dès qu'on fait des actions, par exemple des journées hydrogène ou des journées sur la mobilité douce, ou des choses comme, on met en lien tous les habitants de la vallée, on tourne sans arrêt. On va à Vacher, on va à Saint-Andéol, on va à Saint-Étienne, on va à Sainte-Croix, et de façon à faire connaître le projet. Et l'information passe vraiment dans toute la commune. En plus, on a un journal qui s'appelle La Feuille de Quin, qui est édité une fois par trimestre et qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de toute la vallée, même tous les hameaux, etc. Donc l'information circule vraiment dans toute la vallée.
Là, on va regarder la première installation qui sert à récolter le soleil. Donc, il y a sur la toiture de l'ancienne chèvrerie qui n'est pas orientée plein sud. Donc là, on regarde sur le pont ouest du bâtiment des chèvres, et là on voit une petite installation photovoltaïque de 50 mètres carrés qu'on a fait en 2004 avec un contrat de 20 ans avec EDF. À l'époque, c'était le seul moyen parce qu'il n'y avait pas d'ouverture du marché, pas de concurrent d'EDF, et bien sûr pas à Coprev encore.
Alors Acoprev a commencé à l'initiative des élus, des maires et anciens maires de Saint-Julien-en-Quin, qui s'intéressaient et qui sont intéressés à la question de l'hydrogène.
Hubert Rémilieu, chef de projet chez Acoprev.
Et ils sont allés en visite dans l'entreprise McPhee, qui n'était pas très loin là, et ils se sont dit, à leur retour, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que l'hydrogène vienne jusqu'ici, et on attendra longtemps? Ou est-ce que, comme ils ont l'habitude de le faire, est-ce qu'on prend une initiative? Est-ce qu'on fait quelque chose? Et c'est de là qu'a démarré Acoprev.
Acoprev, une société par action simplifiée, créée en 2016, labellisée centrale villageoise.
Et très vite, ils se sont dit, mais faire de l'hydrogène, d'accord, mais de l'hydrogène vert, bien sûr, et local, il faut le faire à partir d'énergies renouvelables que l'on va produire. Que l'on va produire, consommer, et les excédents vont faire de l'hydrogène pour alimenter nos voitures, etc. Et ce qui pouvait être perçu un peu comme utopique ou un peu illusoire, eh bien, il n'empêche, ça a mis les bases, ça va poser les bases de quelque chose à long terme et qui était tout à fait cohérent et tout à fait intéressant. Hein. Un des premiers axes de travail, c'était de produire de l'énergie, de la produire en circuit court.
Et à côté, on voit 10 mètres carrés de panneaux pour faire l'eau chaude. Et donc, l'eau chaude qu'on fait ici entre mars et novembre, bon, même en décembre quand il fait beau.
Yoren Aoun.
Il faut savoir qu'on utilise à peu près 200 litres d'eau très chaude tous les jours pour laver les faisselles, les bacs d'empressurage, la machine à traire, bien sûr, les pots de traite. Et donc là, on est quasi autonome. Ça veut dire en mars-avril et en novembre-décembre, on a une résistance électrique dans le ballon d'eau chaude qui fait le chauffage qui manque. Mais sachant que bon, l'électricité est en partie de chez nous, parce que les 50 mètres carrés à côté produisent environ 5000 kWh par an. Et à la ferme, on consomme un peu plus que 7000, entre 7 et 8 000 kWh. Donc on fait deux tiers de notre électricité. Cette énergie photovoltaïque va être consommée d'abord chez nous. Et si on ne consomme pas tout, le surplus est injecté dans le réseau public.
Tournez la page.
Alors aujourd'hui, il y a une dizaine de sites de production d'électricité photovoltaïque.
Hubert Rémilieu.
Il y en a un qui est réservé à notre opération emblématique d'autoconsommation collective et un certain nombre de projets, donc il y en a entre autres quatre qu'on est en train de faire aboutir et d'autres que l'on a en préparation. Et effectivement, la première étape de production qui est en place, on est impatient de pouvoir passer à des échelles beaucoup plus importantes. Et les freins sont plus administratifs, réglementaires, mais effectivement, l'ambition est de produire autant d'électricité que les six communes en consomment.
À Coprev, ce sont 130 sociétaires, des familles, des entreprises, toutes les municipalités de la vallée, mais aussi la communauté de communes du Diwa ou bien encore la Compagnie nationale du Rhône. Enfin, tout plein d'énergie, quoi.
Et alors, avec les 160 mètres carrés là, qui sont sur l'autre toiture qui abrite donc les machines et les broyats et plaquettes de bois, cette électricité produite, qu'est-ce qu'elle devient et où est-ce qu'elle va, à qui elle sert?
Donc là, on a fait un contrat de vente totale, de nouveau avec EDF en 2011. Dès qu'il y a de la production, tout est injecté à travers ce transformateur du quartier des Tourettes dans le réseau Enedis. Cette toiture, elle fait environ 30 000 kWh par an. Et si on considère qu'un foyer moyen de entre 2 et 4 personnes qui n'a pas de chauffage électrique, il consomme environ 5000 kWh par an. Donc ça suffit pour 6 familles, 6 foyers. Et en 2011, au moins, c'était vachère. Donc je me suis dit en 2011, avec cette seule toiture sur un bâtiment agricole, on fabrique l'énergie d'une petite commune.
La première énergie qui a été nécessaire, c'est l'énergie des gens d'ici, motivés, intéressés et avec une vue prospective, une vue d'avenir. Hein. Et peu importe les obstacles du moment, ils ont dit, il faut aller vers ça. Ils ont été capables de le décrire et moi, je les ai rejoints dans ces premières étapes-là. Et la première mission que j'ai faite, c'était effectivement sur l'ensemble d'idées qui étaient là proposées, comment on organise différents projets. Donc voilà, la première énergie, c'était ça, de ces élus ou de ces leaders, hein, et appuyer sur l'énergie des gens d'ici qui ont dit « oui, c'est intéressant, il faut y aller ». Donc c'est fait la première association, il y a eu des soutiens, etc. Donc ça a débuté là. Et effectivement, l'idée de départ de l'énergie pour faire de l'hydrogène, c'est effectivement l'énergie renouvelable et le photovoltaïque, parce que c'est le plus simple et le plus accessible. Donc, produire de l'électricité photovoltaïque pour la consommer en circuit court, donc c'est l'autoconsommation collective sur laquelle on a beaucoup travaillé, et aussi produire de l'hydrogène pour alimenter les véhicules, pour stocker de l'énergie.
Les trois quarts de cette énergie sont faites en été et en hiver, ça ne suffirait pas du tout. Donc il faut, si on veut être vraiment en autarcie, il faut avoir un moyen de stockage. Et aujourd'hui, le stockage, quelque part, c'est le réseau national. Je veux dire, on peut considérer que dans un réseau national, il y a toujours une région où il y a plus de soleil, moins de nuages ou plus de vent, etc. Après, il reste toujours le problème de la nuit et de plein hiver, avec des fois plusieurs semaines nuageux. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai participé à créer Acoprev, parce que le but d'Acoprev, c'est aussi d'abord de devenir autarque ou indépendant au niveau d'une vallée. Donc c'est un peu plus grand que Vacher tout seul. Mais avec l'idée, à moyen terme, de transformer le surplus de l'été en hydrogène qu'on peut stocker très facilement en bouteille, comme du gaz, et le retransformer en électricité en hiver, dans la nuit.
Si on revient sur l'autoconsommation collective, qu'est-ce que ça permet ? Ça veut dire que Acoprev produit de l'électricité avec des panneaux solaires pour le moment, en différents points de son territoire, des 6 communes rurales. Hein. Eh bien, Acoprev peut vendre de l'électricité à ses sociétaires volontaires, que l'on appelle autoconsommateurs. Et effectivement, cela est possible dans une distance maximum de 20 km. Donc cette distance maximum de 20 km couvre les 6 communes du territoire. Donc ça veut dire que maintenant, tous les habitants, les entreprises, les artisans, les agriculteurs, les mairies ou autres qui sont sur ces 6 communes peuvent acheter une partie de leur électricité à Acoprev. Comment ça se passe en pratique ? Ça veut dire que je suis habitant de la vallée, je suis sociétaire d'Acoprev, je peux demander à être autoconsommateur, je deviens autoconsommateur, donc la production qui est à Saint-Julien ou ailleurs va sur le réseau électrique, est répartie entre les participants, et donc moi, consommateur, je vais avoir deux factures. Je vais toujours avoir la facture de mon fournisseur habituel, hein, il y en a une vingtaine, une trentaine sur le marché, et puis je vais aussi avoir la facture d'Acoprev. Donc je vais payer ma facture à mon fournisseur habituel, et puis j'ai à peu près 20-25% de ma consommation qui vient d'Acoprev. Donc je vais payer chaque 6 mois une facture d'électricité à Acoprev dont je suis sociétaire. Donc là, c'est là que se matérialise le circuit court aussi. Et la réglementation permet à ce qu'un autoconsommateur ait ses deux fournisseurs d'électricité, son fournisseur historique et national, et son fournisseur vraiment d'hyper proximité. Les points de production que l'on a sont raccordés au réseau public d'électricité. Voilà. Et il y a tout un système de comptage de la production, de comptage de la consommation qui permet cette répartition.
Pomme, les séquoias.
Je suis Nadine Monge, le maire de la commune de Sainte-Croix depuis 2018. J'habite à Sainte-Croix depuis plus de 40 ans. Je suis quand même une native de la vallée, enfin ma maman était native de la vallée, donc j'ai quand même un pied par là. Je suis à la retraite. Et puis, bon, c'est à peu près tout. Oh.
Comment vous me décririez d'abord le village de Sainte-Croix? Un petit mot sur ce village.
Bah, c'est un petit village, oui, 109 habitants. C'est un village qui est relativement calme, même si on a une route départementale qui est très passante. Avec le monastère qui nous amène quand même un petit peu d'animation l'été, enfin tout au moins pendant toute leur saison. On est heureusement qu'il y a eu les nouveaux bâtiments du Veillou qui ont amené un petit peu de population, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de retraités, de gens seuls. C'est heureusement qu'il y a les enfants et l'école pour amener un petit peu de vie dans le village.
Un petit mot sur la vallée de Quin. Comment vous me décririez cette vallée de Quin?
Ben, je pense que alors la vallée de Quin, moi je l'ai toujours connue, donc j'ai peut-être pas le même regard que les gens qui arrivent maintenant, mais elle est quand même attrayante, puisqu'on a quand même beaucoup de gens qui ont débarqué ces dernières années dans la vallée de Quin. Après, elle est vivante, notamment par les associations, par les agriculteurs qui font quand même beaucoup de choses en direct, et ça je trouve que c'est fort sympathique.
Vous me parlez d'association, j'ai envie d'avoir un petit mot de vous sur l'association Val-de-Quin et l'EVS L'Épi Libre. Est-ce que vous êtes en lien?
Alors nous, on est forcément en lien, d'abord par la feuille de Quin, qui est distribuée dans toute la vallée. Nous, ils portent aussi notre projet Coin Lecture, puisqu'on n'a pas le droit à l'appellation bibliothèque. Et puis, il se fait des animations. Val-de-Quin fait des animations sur Sainte-Croix. Après, on a peut-être moins de relations en étant en bout de vallée. Mais tous les habitants qui veulent adhérer à Val-de-Quin et participer aux activités, c'est complètement possible, quoi.
Alors, et quel est votre lien avec cette association qui est tout de même assez majeure sur la vallée de Quin, qui s'appelle donc ACOPREV? Comment vous la connaissez? Quel lien vous avez avec ACOPREV? Et comment vous travaillez avec eux? Quels sont les endroits d'échange, de rencontre?
Ben moi, j'ai adhéré déjà à l'association ACOPREV dès le départ. Après, je suis aussi sociétaire de la SAS ACOPREV. J'ai moi-même un projet de panneau qui est en cours. En tant que mairie, on participe au conseil de gestion. Donc, on se réunit en gros tous les mois. On essaye de participer au maximum aux actions qu'ils font, quoi.
Qu'est-ce qui vous a motivé là pour être sociétaire à ACOPREV?
Ben parce que c'était quand même bien ce projet de centrale villageoise dans notre vallée, c'était quand même super. Et puis la production d'énergie verte, faut quand même pas se cacher, hein, c'est quand même une belle opération. Donc si on pouvait chacun être un petit peu autonome dans la vallée, ça pourrait être super.
Qu'est-ce que vous pourriez me dire de l'avancée de ce projet qui est celui donc de produire de l'énergie renouvelable, mais aussi donc un projet très en lien avec la question des mobilités et de comment on se déplace dans la vallée de Quin et sur le territoire de la vallée de la Drôme?
Bah, la mobilité, même si le vélo prend de plus en plus d'importance, on reste quand même énormément tributaire des voitures. Mais je ne suis pas sûre que ça change beaucoup dans les prochaines années. Les projets d'ACOPREV, ils sont ralentis par plusieurs problèmes, notamment les toitures en amiante qui sont fréquentes dans la vallée, notamment sur Sainte-Croix. Donc c'est des toitures qui seraient intéressantes pour la production, mais elles sont amiantées, donc après ça a un coût qui est quand même important. Après, ils sont aussi bloqués par les lois, l'encadrement de la DDT et tout ça. Donc ça bloque aussi pas mal de choses.
Vous pouvez me préciser un peu ça? Qu'est-ce qui bloque techniquement d'un point de vue de la DDT, c'est-à-dire...
Il y a un discours national, il y a un discours que nous prône même la préfecture, la sous-préfecture, et à côté de ça, il y a les agents de la DDT, dont la direction des territoires, qui sont rigides un maximum, quoi. Donc, et ça, faudrait à un moment arriver à lever ces barrières quand même.
D'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on peut pas faire finalement? Qu'est-ce qu'on peut pas installer dans un village comme celui de Sainte-Croix?
Mais dans celui de Sainte-Croix, comme dans tous les autres, hein, je pense pas que ça soit particulier à Sainte-Croix, on ne peut pas installer des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures, sur toutes les surfaces de terre. C'est assez réglementé quand même, puisqu'il faut des autorisations de travaux.
Et que vous ne les obtenez pas facilement, ou même il y en a certaines que vous n'obtenez pas alors qu'il y aurait un certain besoin.
Bah, il y aurait un besoin, il y aurait des possibilités de faire, et on se retrouve face à un mur qui est très difficile à abattre.
Tournez la page. Vous écoutez Il est une vallée, des énergies en vallée de Quin sur RDIWA et Radio Saint-Ferréol, Bio-Vallée.
Et alors, et l'hydrogène dans tout ça?
Alors l'hydrogène a été un des points de départ de ACOPREV, hein. Et ACOPREV a fait à 4 reprises les journées hydrogène ici à Saint-Julien-en-Quin. Il y a eu 150-200 personnes qui sont venues là. Et on a parlé d'hydrogène, on a fait un certain nombre d'informations pour parler d'hydrogène, ce qui se passe à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle française et puis à l'échelle locale. On a, sur les 2 premières années, c'était ça, hein, on a eu des experts de l'hydrogène qui sont venus à Saint-Julien-en-Quin, hein, et ça a marqué, hein, ça a marqué aussi bien à Saint-Julien que dans le réseau hydrogène. Hein. Après, on a fait une première étude pour voir quelle pourrait être l'utilisation de l'hydrogène possible et de l'électricité et un peu du gaz sur la partie mobilité, en proximité sur le DIWA, enfin en proximité, pour amorcer les choses. On a aussi fait des essais de vélo hydrogène ici à Saint-Julien, hein, il y a 2 ans. Il y a eu plus d'une centaine d'essais de vélo hydrogène ici et au départ de la course la DIWAZE à DI. Hein. Donc on a fait un gros travail d'information, de promotion de l'hydrogène. Maintenant, installer une station hydrogène à Saint-Julien, c'est un défi plus qu'important. Et puis, les développements de l'hydrogène sont allés sur des productions d'hydrogène de très gros volumes pour adresser l'industrie ou le transport lourd. Mais on continue à se dire qu'à une échelle de proximité, il peut y avoir une pertinence à produire de l'hydrogène. Donc le travail qu'on est en train de faire actuellement, alors qui est un travail un peu de longue haleine et de, effectivement, des fois, on est un peu frustré de ne pas pouvoir avoir une production d'hydrogène. Voilà. Mais bon, chaque chose en son temps. On est en train de travailler pour pouvoir faire un démonstrateur de production d'hydrogène alimenté par une production d'énergie renouvelable locale. Et l'idée d'utiliser cet hydrogène, c'est que ça puisse être utilisé pour un véhicule, que ce soit un vélo, un triporteur ou un petit utilitaire. Et puis aussi pour stocker de l'électricité quand on en a en trop. Donc le travail qu'on fait actuellement avec notre club hydrogène ACOPREV et quelques spécialistes et des bénévoles de ACOPREV, c'est de voir comment on peut préparer la mise en place d'un petit démonstrateur hydrogène. Et le projet est sur le site du centre d'accueil international au monastère à Sainte-Croix. Quoi. Donc voilà, on prépare une démonstration d'avenir et on pense que, comme on l'a fait pour l'autoconsommation collective, le fait de réaliser quelque chose, même à petite échelle, ça va provoquer la curiosité, les débats, les interrogations. Et puis, ça va nous obliger à poursuivre cette réflexion. Est-ce que l'hydrogène de petite taille en proximité a sa place ou pas, ou sous quelle forme, etc.
Justement, hier, j'ai envoyé des infos à Hubert Rémilleux sur une boîte à Berlin qui réalise aujourd'hui, tous les ans, quelques douzaines d'installations dans les maisons individuelles. Mais il commence aussi à équiper des petites entreprises avec, quelque part, un conteneur qui contient une batterie pour le surplus d'électricité, mais une petite batterie qui fait quelques heures d'indépendance. Et tout ce qui dépasse la batterie est envoyé dans un électrolyseur qui a donc juste besoin d'un robinet d'eau qui arrive pour séparer les éléments de l'oxygène et de l'hydrogène. Donc il y a de l'oxygène qui est dégagé. Ça purifie l'air, si tu veux. Je veux dire, c'est un sous-produit anodin par rapport à une centrale nucléaire, toujours. Et par contre, donc, l'hydrogène va être comprimé dans des bouteilles qui se trouvent à l'extérieur de la maison. Et la nuit, bon, le but, c'est de stocker assez d'hydrogène pour tout l'hiver et pour les nuits. Et d'utiliser aussi... Donc, à côté de la batterie de l'électrolyseur, il y a une pile à combustible qui brûle, si tu veux, l'hydrogène pour refaire de l'électricité. Donc, c'est à peu près ça ce qui se fait déjà aujourd'hui en petite série en Allemagne.
Respire. 44 degrés 50 minutes et 19 secondes de latitude nord et 5 degrés 17 minutes et 34 secondes de longitude est. 44 degrés 50 minutes et 19 secondes de latitude nord et 5 degrés. De Saint-Julien-en-Quin à Sainte-Croix en passant par Saint-Andéol-Saint-Étienne ou Vacher-en-Quin, suivre la rivière Sûre. 7 minutes et 34 secondes de longitude est. Les énergies. 44 degrés 50 minutes et 19 secondes de latitude.
Quels sont les enjeux qui vous rassemblent, vous, élus, maire de la vallée de Quin, maire des différents villages de cette vallée de Quin?
Alors, il y a plusieurs réponses parce que, par exemple, pour certaines communes, on a la même secrétaire de mairie.
Marilyn Wolf-Roy.
Donc, ça fait évidemment un lien extraordinaire. On partage un territoire commun qui est parcouru par la rivière Sûre. Donc, géographiquement, il y a une espèce de logique et de cohérence à nous relier. On a des frontières communes, donc on est invité parfois à travailler sur des sujets qu'on partage. Je pense là justement à la rivière Sûre, à son cours qui peut par exemple être amené à dégrader des berges ou voilà, à réfléchir sur les chemins ruraux ou un local pour les chasseurs. Voilà, des choses qui des sujets très particuliers. Et puis je pense aussi évidemment à l'école. C'est-à-dire que là, il y a deux écoles dans la vallée, mais il y a la question depuis 2019 de l'obligation de scolarisation des enfants à partir de 3 ans, ce qui nous amène aujourd'hui à nous rassembler. Enfin, je dis aujourd'hui, mais ça fait quand même 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Comment on va accueillir ces enfants dès 3 ans, comme nous l'impose la loi, dans des classes uniques aujourd'hui? Voilà, comment on peut répondre à la loi et comment on peut répondre aux besoins des parents que leurs enfants soient scolarisés localement. Là, pour l'instant, on est encore en phase de réflexion. On a rencontré aussi les services, la direction académique, et on travaille étroitement avec l'inspectrice d'académie du secteur. Donc, on est en lien et on a des pistes et on va tout faire pour que les enfants restent dans la vallée et ne fassent pas, surtout les jeunes enfants, des kilomètres, ainsi que leurs parents, tous les matins et tous les soirs. On est aussi en lien avec la société Acoprev et la réflexion de comment relocaliser la production d'énergie électrique, par la pose de panneaux photovoltaïques, en l'occurrence. Donc ça, on se réunit une fois par mois à peu près, et pour parler des projets en cours, des financements à trouver. Voilà, donc ça, c'est vraiment le sujet qui nous préoccupe, dans la mesure où il y a déjà eu des coupures en fond de vallée, des coupures qui ont pour l'une d'entre elles immobilisé, enfin a duré plusieurs jours, c'est-à-dire ça a nécessité l'intervention de gros services localisés à Lyon, enfin bon, ben, toute une histoire pour faire venir des groupes électrogènes pour que les familles puissent continuer à avoir une vie à peu près normale. Et là, on s'est dit non, c'est super important qu'on puisse être producteur de notre énergie et qu'on puisse, en cas de coupure de réseau, être indépendant, quoi. Voilà, donc ça, c'est un travail de longue haleine, mais qui avance bien, positivement.
Ça avance positivement, et en même temps, on a entendu qu'il y a quand même un certain nombre de freins dus à des réglementations un peu complexes.
Alors ça, ça me fait sourire parce que c'est un peu le propre de tous les sujets, en tout cas avec lesquels on travaille en mairie. En fait, il y a une loi, il y a des règles, il y a un élan, une mode, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, il y a des sujets d'un coup qu'il faut qu'on traite, ou des obligations auxquelles il faut qu'on se conforme. Et puis en fait, derrière, il y a des dossiers de demande de subvention à l'une ou l'autre collectivité territoriale ou à l'État. Et en fait, on se heurte à des services qui sont pas forcément ouverts, pas forcément compréhensifs, pas forcément au courant, pas forcément dans les mêmes temporalités. Voilà, donc la réalité, elle est quand même assez complexe. On est obligé des fois de faire des acrobaties administratives pour et d'y passer un temps absolument monumental. Et quand je dis on, c'est à la fois les élus et à la fois les secrétaires, hein, parce que sans elles, de toute façon, on va pas aboutir un dossier de financement, un dossier de demande de subvention. Donc c'est y a un décalage en fait entre ce qui paraît simple et finalement l'aboutissement d'un projet, quoi, entre le temps et le temps qu'on y pense, le temps qui s'écoule entre le moment où on a envie de le mettre en place et le moment où ça se fait, c'est assez monumental. Voilà, et les obstacles rencontrés sont aussi incroyables, mais vrais.
Et pour tout ça, et il faut évidemment continuer à avoir de l'énergie pour être dans ces projets qui nécessitent des efforts considérables et des fois peut-être même démesurés et pourquoi pas même décourageants.
La question de l'énergie, pour garder de la motivation, pour garder du temps à consacrer aux autres et aux projets de la commune, elle est super, super cruciale. Et moi, je questionne beaucoup en ce moment mes collègues élus en disant c'est quoi vos ressources, c'est quoi vos moyens de garder la tête hors de l'eau, parce qu'on traverse une période particulièrement intense dans la difficulté et dans le temps, la pluralité des sujets, dans l'obligation de serrer la ceinture. Bon, c'est des casse-têtes. On ne peut pas rester tout seul, on ne peut pas rester isolé, on a besoin d'échanger, on a besoin de partager. Et voilà, c'est un subtil mélange entre le soi, l'autre, les autres, et faire ensemble. Et, Et en même temps, avec ces petits moyens, alors quand je reviens sur les secrétaires de mairie, hein, il y a des communes qui n'ont plus de secrétaires de mairie, donc on est obligé de travailler ensemble, mais on a quand même un budget, chaque commune a son budget, chaque commune a ses projets. Donc le partage, les rencontres et la ressource individuelle à garder fondamentalement en tête au quotidien.
Ça a débuté à Saint-Julien-en-Quin, mais très vite, ça c'est les cinq communes voisines ont été associées et les gens ont dit oui, c'est intéressant, donc oui, il faut y aller.
Alors, ça sera encore plus joli quand ce sera hydrogène, ce qui est le projet d'Acoprev. Hein. Donc, pour l'instant, on en est loin. On utilise l'énergie solaire. Mais le but est après d'avoir des vélos à hydrogène. Et l'hydrogène, c'est de l'énergie propre, verte. Et les batteries, c'est un problème parce qu'effectivement, eh bien, les batteries, on ne sait pas comment on les recycle. Voilà, c'est fragile, ça coûte cher, ça consomme de l'énergie. Bon, ce n'est pas entièrement satisfaisant.
Acoprev espère de récolter quelques aides parce qu'on est dans plusieurs sens un site expérimental. Et d'ailleurs, on travaille aussi à laisser, disons, profiter d'autres communes ou groupes de citoyens de nos expériences. Et donc, c'est, je dirais, moralement justifié d'aider les premiers qui vont mettre en réalité des rêves de certains pour tester si c'est faisable, si c'est rentable, sous quelles conditions c'est organisable, qu'est-ce qu'il faut faire pour refaire cette expérience de couverture en plusieurs années de toutes les toitures d'une vallée pour récolter le soleil qui coûte rien. Et de l'autoconsommer, donc sur place, sans l'envoyer loin. En théorie, on crée moins de frais secondaires. Aujourd'hui, je dirais, pour utiliser l'électricité de centrales nucléaires, on est obligé de faire des centaines ou milliers de kilomètres de lignes haute tension pour redispatcher cette énergie sur tout le territoire. Mais si on s'imagine que des groupements de communes comme ce qu'on a fait avec Acoprev s'autogèrent et deviennent autonomes, oui, on pourra un jour arrêter ces centrales avec les lignes de haute tension.
Et en plus, avec la possibilité donc de stocker de l'énergie pour que toute l'année, on puisse en profiter grâce à l'hydrogène. Quoi, voilà.
Tournez la page. Les énergies. Suite au prochain épisode.
J'ai dévalé dans les ravines, dans les prairies, j'étais sauvage. Ma vitesse, c'est l'infini. Ma colère, c'est la tornade. Quelque chose dans le vent.
C'était Il est une vallée, des énergies en vallée de Quin. Pour Radio Saint-Féréol et RDIWA, la radio du DIWA. Une série produite et financée par l'association BioVallée. Merci à vous de nous avoir confié vos voix. À bientôt.
Jusqu'à la source, on sait qui c'est. L'amour nous a désaltérés. Quelque chose dans le vent me dit qu'il est temps.
Une réalisation RDIWA, dit Vallée de la Drôme, France, planète Terre, avril 2023.